n'est pas seul. Le Popo Podcast.
L'idée de l'association Maintenant l'Après est venue, on l'a créée en 2019 suite à tout un temps où on s'est retrouvé à plusieurs personnes par rapport à un constat qu'on a fait sur le fait que la mort est devenue dans notre société, dans nos vies, un sujet extrêmement tabou. Donc on était quelques-uns, au départ il y avait surtout Marie-Rose, Marie-Rose qui est vraiment le pilote de ce projet, et très vite elle a été rejointe par Valentine, et ensuite moi je suis arrivée dans ce groupe de deux personnes, et on a passé du temps à se questionner et à questionner ce qui nous dérangeait par rapport à la façon dont la mort à l'heure actuelle est traitée. Donc on a toutes des expériences, bon, je dirais pas traumatisantes, mais désagréables par rapport à la façon dont ça se passe hein, à l'heure actuelle dans la société. Et l'idée, c'était de proposer un lieu pour que la mort soit à nouveau présente dans nos vies, qu'on arrête d'en faire un sujet tabou, d'en faire un sujet qui est réservé aux hôpitaux, aux EHPAD, aux curés, et que sais-je encore. Et c'est comme ça qu'est venu la première idée de cette association. Ensuite, derrière ce souhait de remettre la mort sur le devant de la scène, il y a aussi le constat que la mort, souvent, on se rappelle qu'elle existe quand on vient de perdre quelqu'un. Et à ce moment-là, c'est absolument terrible, on est en désarroi complet. Et on devient, de ce fait-là, une victime facile pour les marchands de la mort. Donc les systèmes, alors ils ne sont pas tous à mettre dans le même panier. Il y a bien sûr des pompes funèbres qui sont vertueuses aussi, mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas tant que ça. Et on souhaitait, par le fait de remettre la mort sur le devant du tapis, par le fait de donner un lieu de parole à la mort, permettre à chacun de se questionner tant qu'on est vivant, d'en parler avec les gens qui nous sont proches et qui seront probablement amené un jour à s'occuper de nos obsèques, pour que ben, le moment venu, il n'y ait pas un désarroi total et qu'on ne soit pas une proie ultra facile pour tout ce commerce qui est autour de la mort. Marie-Rose, comment je l'ai connue? Donc les deux, on est formés, on est bénévoles d'accompagnement de fin de vie à Jalmalve. Donc Jalmalve, c'est jusqu'à la mort accompagner la vie. Il y a un autre organisme à Strasbourg qui s'appelle Pierre Clément et qui propose le même type d'intervention. Donc il y a des formations pour des bénévoles qui souhaitent aller soit dans des EHPAD, soit dans les hôpitaux en soins palliatifs ou en oncologie, où on trouve des personnes qui sont vraiment dans la phase ultime et qui pourraient à un moment avoir un besoin de parole, d'exprimer quelque chose. Alors ça peut être, ben, des fois il y a des choses, on peut pas les dire à des gens qui sont trop proches ou qu'on aime trop. Donc quelqu'un qui est d'une association et qui est formé à l'écoute permet de déverser peut-être ou de déposer quelque chose qui pourrait à un moment se trouver encombrant et dont on ne saurait que faire. L'idée, c'est aussi, y a des gens qui n'ont pas de famille ou qui n'ont pas vraiment de lien avec d'autres, et de permettre quand même à ce dernier moment de la vie qu'il ne soit pas seul ou qu'il y ait quelque chose qui puisse se passer s'il y a un besoin, autre que ce qui peut se faire, parce qu'il y a des aumôneries, il y a des choses comme ça. Donc il y a des religieux qui font aussi ce type de démarche dans les hôpitaux, mais nous, on est vraiment le côté laïque, humain, et c'est ce qui nous a rapprochés avec Marie-Rose, et c'est comme ça que je la connaissais. Ce qui fait que le joint s'est fait assez facilement quand elle m'a parlé de son projet, de ses réflexions qui étaient en cours par rapport à une coopérative funéraire, par rapport au sujet de la mort, etc. Bon, c'est vite, je l'ai vite rejointe. Bon, là, j'en fais pas en ce moment, mais je me suis formée à l'accompagnement en fin de vie par Jalmalve. Donc, déjà, c'est une formation qui est hyper intéressante, on peut le dire. Et c'est une formation où on travaille énormément sur soi, on se pose vraiment des bonnes questions et ça fait, à titre personnel, beaucoup avancer. Pourquoi on est là, pourquoi on veut le faire, qu'est-ce qu'on pense pouvoir apporter, et toutes ces questions de fond quand même qui sont importantes. Hein. On ne va pas comme ça, on n'a pas une bonne parole à apporter à quelqu'un qui est en fin de vie, pour qui on se prend. Il faut quand même se poser des bonnes questions d'abord avant d'y aller. Et ensuite, c'est très riche quand ça se passe, quand on a l'occasion de faire des accompagnements. Alors bon, des fois c'est pas des gens qui sont à l'agonie, hein, faut pas. Mais c'est des gens qui peuvent être dont on sait que l'échéance est plus proche que celle que nous connaissons pour nous, parce qu'ils sont hospitalisés, malades, parce qu'on n'a plus de remède pour eux. Donc forcément, les perspectives de ces personnes changent et la relation qu'on a à ce moment-là, même si on n'a pas de lien particulier au départ, mais il y a quelque chose de très vrai, de très profond qui se crée à cet endroit et c'est vraiment très riche, oui. Alors pour l'instant, au niveau de l'association, une association ne peut pas organiser des obsèques, par exemple. Il y a une réglementation qui est très stricte, qui est très, très contraignante. Donc pour pouvoir, en gros, il n'y a que les pompes funèbres qui peuvent organiser tout, c'est-à-dire de la mise en bière, mise en cercueil, transport des corps, etc. Enfin, tout ce qui est autour d'un décès, il faut avoir un statut de pompe funèbre. Il y a des autorisations qui sont délivrées par la préfecture. Pour pouvoir bénéficier de ces autorisations, il faut avoir des formations. Il y a des formations qui durent, je ne sais plus si c'est un mois ou deux mois, mais enfin pour être directeur de pompe funèbre, pour être conseiller funéraire, donc c'est vraiment très, très cadré. Et nous, au niveau de l'association, ce qu'on a pu faire néanmoins, c'est de proposer des aides, des accompagnements dans l'organisation de cérémonies laïques. Où on ne s'occupe pas du tout du corps, on ne s'occupe absolument pas de cette partie-là, et ça a été quand même le cas pendant le Covid, là, où les personnes se sont retrouvées à perdre quelqu'un de proche et à ne pas pouvoir faire de cérémonie tout de suite. Il y a eu des situations très tragiques et très dramatiques. Et ce qu'on leur a proposé, c'est de faire une cérémonie dans un deuxième temps, c'est-à-dire qu'il y a eu, on a très vite fait disparaître les corps, il y a eu toutes ces choses absolument abominables, où les gens mouraient vite dans le cercueil, vite il fallait les expédier, et puis ensuite on les amenait loin, et les familles n'avaient pas le droit de se réunir, enfin on les amenait loin dans des crématoriums où il y avait de la place, enfin, c'était vraiment pas beau. Et les personnes, on a toujours besoin de faire comme ça une espèce, c'est pas le début d'un, si c'est aussi le début du travail de deuil, mais il y a quelque chose de l'ordre de tourner une page, mais pas la tourner tout seul, la tourner vraiment, faire quelque chose, il faut marquer le coup, il faut se souvenir, il faut parler de celui qui est parti ou de celle qui est partie, il faut l'honorer d'une certaine manière, et on peut pas le faire juste tout seul dans son coin, dans sa tête, donc il faut matérialiser ça, et la cérémonie, elle répond toujours à ça. Et on s'aperçoit, nous, qu'il y a aussi de plus en plus de personnes qui ne sont pas religieuses, qui n'appartiennent pas à une religion, et qui ne se retrouvent plus dans les rituels qui sont proposés par les églises, quelles qu'elles soient, hein, quelles que soient les confessions. Donc il y a ce grand besoin de cérémonies laïques. Et au sein de l'association, on a 3 personnes qui sont formées à être conseillers funéraires ou même directrice de pompes funèbres, et qui sont tout à fait capables, qui ont appris et qui ont l'humanité aussi suffisante et pour pouvoir aider, accompagner, proposer des choses. Et l'idée avec l'association, c'est de proposer des choses qui sont un peu peut-être innovantes aussi, qu'on n'oserait peut-être pas, qu'il y ait de la musique, qu'il y ait des chants, qu'on fasse des vols de ballon, pourquoi pas, enfin on peut tout imaginer, donc ça dépend vraiment des sensibilités des personnes qui sont là, de leurs souhaits, et on cherche à entendre en fait quel est le besoin de la personne qui est là, qui s'occupe de faire cette cérémonie, quelle est la personne qui est partie, qu'est-ce qu'on veut garder d'elle, qu'est-ce qu'on veut mettre en relief, comment on veut l'honorer, etc. Donc on a pu faire comme ça, accompagner des cérémonies, alors c'est pas énorme, mais c'est à titre bénévole, puisque l'association ne peut pas le faire autrement, et c'est très bien. Mais c'est pas l'activité principale de l'association, c'est pas quelque chose qu'on peut pour l'instant reproduire. Ce sera le cas avec la création de la coopérative, quand elle sera hyper active. Il y aura, ça c'est un des volets importants qu'on souhaite proposer. L'association, elle est née autour de cette idée que la mort, on n'en parle plus, la mort c'est devenu un sujet tabou, la mort elle est cachée sous les tapis, elle est cachée derrière des murs épais. Et donc l'activité principale, c'est de remettre la mort sur le devant de la scène. Ça a un peu commencé comme ça. Donc quand on a créé l'association en 2019, on a réussi à se faire entendre par les élus aussi, donc on a eu des subventions. Et ces subventions nous ont permis notamment de créer un site, de faire notre première campagne de pub, nos petites plaquettes, flyers, où on parle de nous, de nos projets, etc. Et on a organisé tout de suite la première année ce qu'on a appelé les rendez-vous mortels. Les rendez-vous mortels, très mortels. Et bon, c'était relativement, oui, c'était quand même un bel événement, et c'était nouveau dans le paysage. Et c'était juste avant le Covid, donc on a encore eu de la chance, on a pu se réunir. On avait notamment invité un photographe qui vient de Metz et qui, lui, a pour passion de photographier des enterrements. Donc c'était des enterrements à titre privé qu'il avait vécu lui. Et c'était très belles photos de cimetières, de cérémonies, un côté très sensible. On voit peut-être des fois juste une main ou un vitrail, enfin voilà, tout ce qui peut graviter autour des enterrements. Et on n'est pas habitué non plus à prendre des photos des enterrements. On prend les mariages, les naissances, mais pas les enterrements. Et pourtant, il y a des choses très belles qui s'y passent, il y a des choses très émouvantes. On avait aussi proposé quelques conférences autour de ce sujet-là. Donc, il y avait une sur la résilience, il me semble. Plus tard, mais ça c'était 2 ans après, quand il y avait le Covid, on avait parlé aussi du deuil, justement impossible, un peu quand on peut pas se réunir. Donc, il y a eu plusieurs sujets comme ça. Et on a amené aussi un petit peu dans les consciences la partie écologiste dont je n'ai pas encore parlé, mais qui est aussi un sujet qui nous préoccupe. C'est-à-dire que la mort telle qu'elle est traitée à l'heure actuelle est source de pollution, c'est un gros mot un peu, mais en tout cas, telle qu'on pratique les inhumations, les crématisations, c'est pas très bon pour notre environnement. Donc il y a une technique qui existe qui n'est pas du tout autorisée pour l'instant, ni en France, ni en Belgique, où il y a justement Francis Busini qui milite fortement depuis 30 ou 40 ans pour cette possibilité-là, et donc qui est l'humusation. Alors à l'occasion des rendez-vous mortels, on avait aussi proposé une conférence pour qu'il puisse exposer son propos, montrer, voilà, nous dire comment ça fonctionne, quels sont les avantages de cette méthode-là, quels sont les inconvénients de ce qu'on pratique à l'heure actuelle, etc. L'humusation, c'est un système de, je mets des gros guillemets, de compostage du corps. Donc on fabrique une grosse butte, enfin on crée une grosse butte avec différents matériaux, etc., dans lequel on va glisser le corps, qui pour le coup n'est pas dans un cercueil, mais uniquement dans un linceul. Et le travail de décomposition se fera en l'espace de 3 mois. Il y a un gros travail de décomposition qui se fait. Ensuite, il y a une partie où il faut effectivement broyer les os qui restent, etc. Et tout le processus, ensuite on remet dedans, et à la fin, tout à la fin, au bout d'un an, on se retrouve avec un beau paquet d'humus. Quelques mètres cubes d'humus qu'on peut utiliser pour planter des arbres, pour amender un jardin, enfin. Et on enlève toute trace. En tout cas, il n'y a plus rien qui part dans la nappe phréatique, il n'y a pas de mauvaises choses qui restent à la surface de la terre, etc. Et on a ce temps, moi je trouvais assez joli quand même, le processus se fait en un an, et souvent il y a un peu cette durée de un an, la première année après le décès de quelqu'un, voilà, il y a toutes les premières fois, le premier anniversaire où il n'est pas là, première Pâques, premier Noël, premier voyage, première vacances, et donc tout ça, ça prend finalement un an pour le traverser. Et le processus d'humusation se fait sur un an aussi. Et au bout d'un an, on a cet humus qu'on peut utiliser, employer à quelque chose d'autre, que ce soit un arbre ou une fleur. Et je trouve ça assez poétique finalement aussi de le mettre en lien comme ça. On a proposé aussi les visites de forêts cinéraires, donc c'est un autre concept qui est interdit en France aussi pour l'instant, et qui consiste à prendre une forêt et à la réserver à l'enterrement d'urne au pied de l'arbre. Donc c'est des forêts qui existent déjà pour la plupart. On peut aussi faire avec des forêts qu'on crée, mais souvent en Allemagne c'est des forêts qui existent. On les sanctuarise d'une certaine manière et on va répertorier tous les arbres qui sont là, et selon la taille des arbres on va décider qu'on va pouvoir mettre 2, 4 ou 6 urnes à une certaine distance du tronc et autour des racines de cet arbre. En y mettant simplement, chez certains, c'est juste une plaque, une petite dalle qui n'est pas très grande, hein, qui doit peut-être faire 20 cm de chaque côté, où on marque le nom de la personne, les années peut-être. Ou alors éventuellement on accroche un petit papillon dans l'arbre, ça dépend des endroits. Et c'est la seule chose qui sera autorisée. L'urne qu'on va enfouir au pied de l'arbre, c'est une urne biodégradable, qui fait qu'au bout d'un certain temps, l'urne se décompose et les cendres partent vraiment dans la terre. Et comme ça, c'est assimilé à un cimetière, enfin on sait que cette forêt-là, on n'y touchera pas. Donc il y a aussi cet intérêt de préserver une forme de biodiversité, de préserver les forêts naturelles et dans lesquelles on interviendra le moins possible. Donc, il y a une réglementation assez stricte, hein, on ne peut pas y mettre de fleurs en plastique, on n'y laisse pas des bougies en plastique, enfin toutes ces choses-là, c'est pas possible, mais on peut aller se promener en famille, on peut aller faire des pique-niques dans les forêts, tout ça, comme une forêt. Sauf que y a plein d'endroits où il y a des petites étiquettes et on se rappelle de tous les gens qui un jour ont traversé cette terre et sont partis. Il semble que ça commence, hein. Je crois que c'est Muttersols là qui est dans le. Alors Muttersols, ils sont où? C'est dans le Ried. C'est pas trop loin, c'est au sud de Strasbourg. Ils sont en train de valider le principe d'une forêt cinéraire chez eux. Donc ça vient. Après, en tant qu'Alsacien, on n'est pas interdit d'aller se faire enterrer, de mettre ses œufs, ses cendres de l'autre côté de la frontière. C'est un peu moins pratique pour les visites. Fernande, qui est venue nous présenter ce processus dans lequel elle a accompagné son mari. Donc, son mari s'est trouvé à avoir plusieurs cancers, je crois 4. Donc au fur et à mesure, en gros, ça s'est fait sur 4 années. Et au début, il y avait des remèdes, il y avait des soins, donc il a tout suivi comme il faut, il a fait les soins qu'il fallait, ils ont continué. Puis un beau matin, ils ont refait des examens et là, il y a eu le verdict des médecins qui lui ont dit, là, on ne peut plus rien faire pour vous, on ne peut plus rien faire pour vous. Et je crois que c'était au mois de janvier. Et ensuite, à partir de là, son état s'est plutôt dégradé quand même. Il était très très lucide dans sa tête, mais physiquement il était de plus en plus diminué, il a eu des pertes, enfin, il ne mangeait plus, il était alité, enfin, ça devenait vraiment un état très très dégradé. Et donc au Canada existe cette possibilité de mort accompagnée médicalement, avec beaucoup de restrictions et de conditions, on ne peut pas le faire juste comme ça d'un claquement de doigts. Mais c'est leur médecin qui leur en a parlé, je crois vers le mois de mai-juin, pour leur dire qu'est-ce que vous pensez de ça. Donc d'abord il en a parlé à l'épouse. L'épouse a dit, je sais pas, je pense qu'il n'y a pas droit parce qu'il n'est pas. Alors, c'était quoi la restriction qu'elle se mettait? Il n'était pas condamné en fait, on ne pouvait pas dire qu'il allait mourir dans d'atroces souffrances sous un temps qu'on pouvait préciser. Il diminuait, mais finalement il souffrait pas, si ce n'est qu'il pouvait souffrir moralement. Mais il était juste là à ne plus pouvoir se nourrir tout seul, à ne plus pouvoir se laver et tout ça, mais voilà. Donc, elle pensait qu'il n'y avait pas droit. Et en fait, si, c'était possible. Parce que la condition au Canada, c'est que la personne soit lucide et qu'on puisse vraiment s'assurer que c'est son choix à elle et qu'il n'y a pas d'influence, que c'est pas quelqu'un d'autre qui prend le pouvoir. Et à partir du moment où la personne concernée, mais il faut qu'elle soit malade, bien sûr, on peut pas juste demander ça pour quitter la vie, c'est sûr. Donc dans le contexte d'une maladie qui est incurable et à laquelle médicalement on ne voit pas d'issue, la personne peut demander à être assistée. Donc ensuite les médecins en ont parlé à son mari a dit oui très très rapidement, et ensuite le processus c'est que ce soit confirmé par un deuxième médecin, donc il y a eu plusieurs visites comme ça, il y a un deuxième médecin, je crois qu'il y avait même une infirmière aussi, chacun ayant des conversations individuelles et personnelles avec la personne concernée pour vraiment s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche et que la personne est vraiment déterminée et que c'est son choix à elle, que c'est pas pour répondre à une attente de quelqu'un d'autre. Donc pour finir, il a demandé à bénéficier de ça, et ensuite ça s'est fait très très vite. Ils ont eu en gros 9 jours, je crois, entre le moment où il a demandé et le moment où on a donné l'accord. 9 jours après, ils avaient une date et un horaire pour faire l'acte d'assistance de mort. Donc elle raconte, pendant ce temps-là, une fois qu'il savait, donc il savait qu'en gros, que le samedi suivant à 10h du matin, ce serait fini. Donc elle a informé tout le monde, enfin tous leurs amis, etc., qui ont voulu, ils ont tous fait leurs adieux. Alors lui, au départ, n'était pas très... Il n'avait pas très envie, s'il ne voulait pas de quelque chose de larmoyant. Mais en fait, non, elle dit que c'était très beau, parce que chacun est venu avec son essentiel et pour une dernière rencontre vraiment en pleine conscience. Donc elle raconte ça avec beaucoup d'émotion, et moi j'en ai aussi quand j'y repense, parce que c'était très, très touchant, cette histoire. Et donc ils ont vécu une semaine comme ça, un peu hors du temps, où chacun, les amis, la famille, tout le monde était là, et la prochaine perspective, c'était sa mort. Pour le coup, elle avait une heure et une date qui étaient vraiment clairement connues. Et ils ont fait ça, donc elle dit ça se fait très très vite, c'est des injections, voilà, je crois qu'il y a 4 injections, il y en a une première, puis une deuxième, et puis ça se fait en l'espace de quelques minutes, c'est terminé. Elle disait, il est parti avec un énorme sourire. Ils avaient préparé un diaporama pendant qu'ils recevaient ces injections. Il y avait tout le diaporama de leur vie, enfin leurs vacances, les moments forts de leur couple, leurs enfants, leurs amis, enfin tout ça. En fait, ils ont fait une cérémonie d'adieu avec lui présent en train de partir. Et pour le coup, ça donne une dimension un peu... On n'est pas habitué à ça quand même. on peut le faire. Des fois, il y a des cérémonies laïques qui sont très très belles, où on prépare des jolies choses et on sent que la personne est presque avec nous, tellement c'est touchant. Mais là, ils l'ont vraiment fait, il était là. Il était là, il était en train de partir. Et après, ils ont refait, bon, je crois qu'ils ont jeté ses cendres après à l'eau, je ne sais plus, mais ils ont refait avec d'autres gens une vraie cérémonie, enfin quelque chose de mais laïque. Mais quand même, je trouvais ce témoignage très touchant. Et bon, à l'heure où on se questionne toujours encore en France sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est juste, est-ce qu'on peut aller jusqu'au suicide assisté, certains l'appellent comme ça. Ensuite, on sait qu'on a, en France, on a la sédation profonde qui est plus ou moins autorisée sans que ce soit... on sait pas vraiment, enfin, à un moment, on décide que, effectivement, si, enfin, on sait que si on met une certaine quantité de produits pour soulager les douleurs, ça va finir par une mort, parce que l'organisme va pas y survivre, donc c'est pas... voilà, c'est pas le vrai processus de mort assistée, mais il y a quand même de ça déjà à certains endroits et on sait qu'on le fait. Alors, le souci c'est le cadre toujours. Comment on fait pour encadrer ça, pour qu'il n'y ait pas de dérapage, pour que ce soit vraiment par rapport à la dignité de la personne, dans ce respect-là. Puis toujours cette limite entre une forme d'acharnement qu'on sait très bien faire, thérapeutique, on arrive à maintenir des gens assez artificiellement en vie, et puis ce côté où, quand il faut les lâcher, comment on les laisse partir? Parce qu'elle était en voyage ici, et c'est son neveu, son cousin, enfin bref, c'est quelqu'un de sa famille qui connaît notre existence et qui lui a proposé de faire ça. Au début, elle était un peu hésitante, et puis pour finir, elle a accepté. Et quand on avait fini l'apéro, là, elle était... elle disait, je pensais pas que j'y arriverais, j'ai eu un peu peur que ça me remue trop, et finalement je suis très contente de l'avoir fait. C'était, pour elle aussi, c'était enrichissant d'en reparler, d'en parler à des gens qui n'étaient pas de la famille, qui n'étaient pas du tout impliqués émotionnellement avec eux, puisqu'on la connaissait pas, on la découvrait en même temps. Et oui, puis elle était contente aussi de ce qu'on fait au niveau de l'association, justement, de pouvoir contribuer aussi à cette parole plus libre autour de la mort. Ben oui, on peut en parler. On meurt pas d'en parler. C'est un truc de belge, ça. Bon, ça a du sens, hein. C'est utile d'en parler. Quelles que soient les manières, en fait, on contribue tous à quelque chose de collectif qui permet à tous les individus de ce collectif à se sentir... peut-être se sentir mieux par rapport à ça, ce que ce soit moins difficile... On le fait par exemple parce qu'on continue d'animer. Moi je vais régulièrement à Bouxwiller là, pour un café mortel. Et on a là-bas des rencontres absolument extraordinaires. Des gens qui viennent, qui disent enfin je peux en parler. Parce qu'ils ne savaient pas où poser leur paquet là. Et donc ça, c'est un lieu où on libère, où on peut dire, où on sait qu'on peut être entendu. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut dire. Et il y a un vrai besoin. Un vrai besoin, les gens sont toujours... et nous, on est extrêmement touchés par tout ce qui peut se dire de profond, de vécu, d'intériorisé. C'est vraiment très très chouette. Hein. D'être dans une écoute neutre, de ne pas le ramener à son petit ego, un peu à ses palpitations, ouais, d'accueillir que l'autre, bah, il peut avoir souffert autant que soi, et c'est pas parce qu'il est plus loin ou... C'est juste accueillir ça et pas avoir besoin de dire « Ah, mais moi, tu peux pas t'imaginer comme c'était dur !» Moi, je suis rien de plus que l'autre. Mais souvent, il y a un peu dans les familles des choses comme ça qui peuvent se jouer. Après, se redonner de l'importance, même par rapport à la mort de l'autre, ou même dans cette traversée. « Ah, mais tu peux pas comprendre, pour moi c'est différent. » On entend des fois des choses comme ça. Et c'est vrai, dans l'association, dans les cafés, tout le monde est pareil, tout le monde au même niveau, chacun dit ce qu'il a envie de dire, chacun écoute ce qu'il a envie d'écouter, et c'est vraiment très, très tranquille, pour le coup. Les gens ne connaissent pas, puis de toute façon, c'est que la vérité, elle est multiple, on a chacune, notre façon de la vivre, c'est ça la vérité, il n'y a pas une vérité, Donc ça aussi, à un moment, il faut accepter. Mais souvent, dans les familles, il y a des querelles, des querelles ou des trucs, mais non, t'y étais pas, mais t'as pas compris.
C'est pas une question facile, en fait, je sais pas. Si je peux parler de ça, j'en sais rien. Je réfléchis en même temps. C'est assez compliqué cette notion de faire son deuil, mais c'est vrai que c'est toujours quand on perd quelqu'un, il y a toujours il y a quand même un moment de choc, un moment de surprise, de prendre conscience d'un seul coup que l'autre, cet autre, on ne le verra plus. Il sort de la vie matérielle, il sort du paysage, c'est plus quelqu'un avec qui on va pouvoir rigoler, échanger, téléphoner. Et en même temps, moi je sais que j'ai toujours eu cette sensation que les gens partaient, les gens mouraient. Ça, c'était ok. Et j'avais quand même toujours cette impression que même partis, ils étaient toujours là. Il y avait comme... même des fois, je me disais, ah bah, qu'il est mort, je le sens beaucoup plus. Il y a comme une présence, enfin une présence, c'est pas le terme de présence qui est juste, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Il y avait comme une transformation. Voilà, il n'y avait plus d'échanges possibles, concrets, comme on peut le faire dans ce qui est pour l'instant notre vraie vie. Mais il y avait des interactions et des présences subtiles, ou je ne sais pas. Mais en même temps, ce n'est pas des fantômes. Hein. Je ne suis pas non plus en train de dire que je vois des trucs. Ce n'est pas ça. Juste d'avoir cette certitude que ces vies que j'ai pu approcher à d'autres moments et qui ne sont plus dans ma vie, bah elles sont pas, elles ont pas disparu comme ça, c'est pas, paf, il n'y a plus rien, c'est pas du rien qu'il y a, c'est autre chose, et c'est un peu différent, mais il y a toujours quelque chose. Donc faire son deuil, je sais pas trop à quel moment c'est et comment ça prend sa place, mais oui, il y a un peu il y a quand même ce temps où t'entends la nuit, on rêve que l'autre est là, et puis on se réveille, on dit, mais non, il est mort, quoi. Puis ça peut venir 20 ans après encore, de rêver de quelqu'un qui est mort, alors que dans le rêve, il était vivant, on faisait des choses avec, comme dans la vraie vie d'avant, d'un avant assez ancien des fois, et c'est assez curieux, mais je crois, ouais, c'est des choses qui s'intègrent. Peut-être ça, le deuil, c'est un moment de se dire... c'est ok, la vie elle est d'un côté, de l'autre, je sais pas trop. Je sais qu'il y a des lectures, voilà, c'est ça que j'avais envie d'évoquer aussi, il y a des lectures qui sont absolument intéressantes par rapport à ce sujet du deuil et de la mort, et je pense notamment au dernier prix Goncourt, hein, je suis pas, pas pour faire la promo des prix, mais le livre de Brigitte Giraud là, qui s'appelle « Vivre vite », où elle revient sur le décès de son mari accidentel il y a 20 ans. Et bah, j'ai commencé à le lire, là, on me l'a prêté. C'est vraiment, c'est très bien écrit. C'est bien écrit dans le sens où ça se lit, c'est précis, c'est incisif, ouais, c'est fort. Hein. Et je crois que ça dit aussi que toute cette littérature, elle est extrêmement nécessaire. Et puis elle parle aussi, elle, du cheminement qu'il lui a fallu faire et pourquoi elle écrit ce livre sur cette disparition, sur cet arrachement. Parce qu'elle a besoin de s'approprier aussi quelque chose de l'ordre de son histoire avec lui et de ne pas laisser tout ça ouvert à tout le monde. Chacun y va de son interprétation, voilà. Donc ça, je trouve intéressant qu'il y ait ce livre-là. Ensuite, je crois que c'était l'an passé, où Delphine Horviller, qui est rabbin et qui a écrit un livre « Vivre avec nos morts » ou « Vivre avec ses morts », qui est absolument passionnant aussi. Ensuite, il y a longtemps aussi, j'avais lu Vinciane Depré, qui s'appelle « Au bonheur des morts ». Et c'est pareil, elle a questionné comme ça des gens sur leur relation à leur mort. Et c'est absolument... c'est délicieux, c'est beau, c'est des belles histoires, et on s'aperçoit que tout le monde, hein, le voisin, l'épicière, le boucher, on a tous nos relations particulières avec nos morts, et c'est très touchant. Voilà. Et puis il y avait aussi un livre que j'avais beaucoup aimé, c'était Christiane Singer, enfin beaucoup aimé, oui. Quand elle apprend qu'elle est condamnée, qu'elle a plus que 6 mois à vivre, elle se met à écrire sa traversée, c'est les derniers fragments d'un long voyage, elle a appelé ça. Et c'est très intéressant aussi de voir à la fois la révolte, l'acceptation, le cheminement, à la fois dans l'acceptation morale ou pensée. Et puis, à côté de ça, il y a quand même ce qu'on sait, c'est la dégradation du corps, la maladie qui prend plus de place, etc. C'est un très très beau livre aussi. Voilà. Et puis il y avait, bah, je sais pas, moi je suis alsacienne, alors il y a Simone Morgenthaler qui a écrit il y a longtemps un livre qui s'appelle « Au jardin de ma mère » et qui est en hommage à sa mère disparue aussi, enfin où elle raconte ce processus de deuil justement aussi. Tout ça, c'est des livres que je trouve très, très chouettes et qui nourrissent aussi, comme les podcasts qu'on peut entendre, c'est encore une autre manière. Et ça dit aussi qu'on a tous ce besoin
d'en dire des choses, ce besoin d'en entendre des choses, et que c'est pas rien la mort, hein, c'est quand même, ça fait tellement partie de nos vies, donc il faut vraiment qu'on cultive aussi cette possibilité de l'évoquer, de que ce soit pas un sujet tabou. Genre, moi, souvent on me dit oh, mais toi t'es toujours dans la mort, mais non, mais je suis très vivante, quoi. Et je suis pas du tout, je me sens jamais morbide, mais je suis toujours prête à parler de la mort, c'est vrai, mais c'est pas morbide pour moi, au contraire, je crois que plus on a conscience que nos vies ne font que passer, mieux on peut vivre ses vies aussi, apprécier les choses à chaque instant, les vivre vraiment, et quand c'est fini, bah c'est fini, mais on n'aura pas le regret, la pointe de se dire « Ah, mais si j'avais su qu'il allait mourir si tôt, bah, ah oui, ça peut arriver à tout le monde de mourir tôt ou tard, on ne sait pas, on ne décide pas, mais c'est bien de le garder en tête. »